130 ce matin.
If you have your Bible, you
si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir au, au psaume 130.
Let me pray.
Laissez-moi prier.
Father, we thank you so much.
Père, nous te remercions tellement pour l'opportunité de nous, de nous retrouver ensemble, de nous réunir ce matin. En tant que tes fils et tes filles, alors que nous regardons à toi, nous prions que ton esprit ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, et que nous puissions pas seulement comprendre, mais qu'on puisse vraiment te connaître. Et qu'on puisse vraiment te voir ce matin. On est tellement de distractions qui nous emmènent loin de toi, Seigneur, mais on a tellement de choses aussi sur le cœur, mais par ton esprit que tu nous parles, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent entre eux à propos de toi, qu'est-ce qu'ils disent? Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent entre eux de toi, que disent-ils? Certains pensent que Dieu attend toujours qu'il fasse une erreur, que c'est comme un officier de police qui garde toutes les notes de ce qu'on fait de mal. Et des fois, il y a des choses mauvaises qui nous arrivent dans la vie et on se dit « Ah, c'est parce que j'ai fait une erreur et Dieu me punit ». Et d'autres personnes se font une idée de Dieu comme un Père Noël, Dieu qui donne des récompenses à ceux qui sont bons et il punit ceux qui ne sont pas bons. Alors, comment est Dieu? Comment est-il vraiment? Comment nous voit-il? Comment est-ce qu'il nous voit? Qu'est-ce qu'il fait de toutes nos erreurs? Il y a un autre mensonge qui est attaché à cela et à ce mythe qui dit que parce que Dieu garde note de tout ce que je fais de mal, c'est à moi de faire des choses pour devenir meilleur. C'est à moi de prier plus, de faire plus, de servir plus, parce qu'il espère de moi que je fasse plus de choses, mais ça, ce n'est pas vrai. Ces deux choses sont des mensonges. Et dans le psaume 130, David nous parle de ses mensonges. Le mensonge du fait que Dieu compterait les scores de tout ce qu'on fait de mal, et le mensonge qui dit que c'est à nous de faire notre mieux pour nous racheter. Cette façon de penser nous rend anxieux. Si Dieu se souvient de tout ce que je fais de mal, Alors, je ne vais rien faire, j'ai trop peur de faire une erreur, j'aurais peur de vous dire ce que j'ai fait de mauvais, j'aurais peur de partager ce que j'ai sur le cœur. Et du coup, il y a des communautés comme ça qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils ne veulent pas partager, ils ont peur de faire des erreurs. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu essaye de créer parmi son peuple. Alors, lisons le psaume 130 et voyons comment David parle de ses problèmes dans sa vie, de son expérience de vie.
Psaume 130.
Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel, Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui. Plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. David crie souvent au Seigneur pour de l'aide dans ses psaumes, et aussi contre ses ennemis qui sont autour de lui, qui l'attaquent. Les gens qui attaquent son nom et qui ridiculisent Dieu, qui se moquent de Dieu parce qu'ils croient en d'autres faux dieux. Et dans ce cas-là, David crie pour de l'espoir. Il dit, Seigneur, je crie de mes profondeurs. Et ce qu'il appelle, c'est de la miséricorde. L'ennemi est de plus en plus proche. David est conscient qu'il y a un danger. Et il sait très bien au fond de lui qu'il y a une chose indéniable, qu'il ne sera jamais assez bon pour se sauver lui-même. Le plus profond de son âme, il réalise la condition humaine, il sait qu'il est en train de couler, il est dans la détresse. Il est attiré vers le bas et il sait qu'il n'y a pas d'espoir, sauf si Dieu intervient et le sauve. Le mensonge, c'est que l'humanité peut se sauver elle-même, que si on essaye assez fort, on peut avoir la paix dans le monde entier, qu'on peut faire ça, construire un meilleur monde, mais nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Donc David appelle, crie à Dieu. Il sait que son seul espoir, c'est la miséricorde de Dieu et sa grâce. Au verset 3 et 4, il dit, « Seigneur, si tu tenais compte de nos fautes, qui pourrait subsister ? Personne ne pourrait subsister. Si Dieu me suivait pendant une journée typique avec moi et qui gardait des notes sur chaque attitude, chaque idée, chaque chose que je faisais un peu contre lui, je serais écrasé, je serais anéanti, j'aurais zéro chance. Mais il dit, mais avec toi, il y a le pardon. La disposition de Dieu envers nous, ce n'est pas le jugement. Il ne cherche pas juste à nous coincer quand on fait des fautes. David nous décrit comment Dieu le fait et comment il le fait. Il dit qu'avec Dieu, auprès de Dieu est le pardon. Non seulement Dieu peut pardonner, mais il veut pardonner. Il a la disposition de son cœur, son mouvement envers nous, c'est pas la colère. Son mouvement envers nous, c'est son désir, c'est d'être mieux. Mais il sait que nous sommes dans cette réalité et que souvent mon cœur est un peu se détourne de lui. Et sa réponse à cela, ce n'est pas de nous punir. Sa réponse, c'est de nous pardonner. David dit, il y a le pardon pour qu'on te craigne. Ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, on le retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Parfois, les gens disent une certaine révérence envers Dieu ou vivre dans l'admiration de Dieu. C'est peut-être des mots assez appropriés. L'idée, c'est quand on vit dans la crainte de Dieu, on vit dans la réalité de qui il est. Et toute notre vie est orientée autour de cette réalité. Et donc, David nous dit, si Dieu gardait des comptes de mes fautes, j'aurais zéro chance d'être sauvé. Mais auprès de toi, il y a le pardon. Et je vais orienter ma vie autour de cette réalité, que tu es un Dieu qui pardonne. Et il choisit d'avoir une relation avec Dieu, pas comme avec un juge en colère, mais avec un Dieu qui pardonne. Donc dans les versets 5 et 6, on voit, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » C'est ça la vie d'une personne qui est orientée vers Dieu, vers un Dieu qui pardonne. Donc l'attente de Dieu, espérer en l'Éternel, c'est une espèce d'attente, une attente en ses promesses, comme si il y avait un événement qui venait, un anniversaire ou la visite d'un ami, des vacances qui sont bien méritées. C'est ça cette attente. On a vraiment hâte que quelque chose arrive. Et la personne qui a sa vie qui est construite autour de Dieu s'attend à Dieu à chaque instant parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas d'espoir à aucun autre endroit dans le monde. Rien d'autre ne pourra le sauver. Alors cette personne, c'est ces hommes et ces femmes qui ont leur cœur orienté vers Dieu, mettent leur espoir dans sa parole parce que sa parole est une source d'espoir qui nous aide à comprendre qui il est et comment il est en mouvement vers nous. Et David fait un jeu de mots, là, au verset 3, il dit, si Dieu tenait compte de nos fautes, et en anglais, en tout cas, il y a un jeu de mots, il dit qu'il ne tient pas compte de nos fautes, mais David tient compte de Dieu. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière des choses. Je peux m'attendre à Dieu parce qu'à chaque fois qu'il vient vers moi, c'est mon réconfort, c'est ma libération. Donc la personne qui orbite autour de Dieu est dans l'attente de Dieu, de ses promesses, et garde le regard fixé vers Dieu parce que Dieu va le rendre meilleur. Alors comment est-ce que Dieu puisse être si miséricordieux. Il est saint, non? Il est juste? Alors, qu'est-ce qui le motive à nous pardonner? Comment cela se produit? Dans le verset 7 et 8, il nous dit, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. » Et donc, la bonté, une généreuse libération, c'est un amour fidèle. C'est l'amour qui le motive à nous pardonner. Et il pardonne parce qu'il aime, parce que le pardon, c'est une expression de l'amour. Et donc, son mouvement envers nous, c'est de pardonner. Et il le fait parce qu'il y a assez de rédemption, il y a assez de salut. Le salut est abondant. Lui-même l'a fait en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, notre Dieu est un Père qui nous aime. Il n'est pas un juge vindicatif et en colère qui cherche une opportunité de juger. Non, il nous voit chacun d'entre nous personnellement, avec notre nom, et il bouge vers nous avec amour et pardon. Si vous voulez voir à quoi ressemble Dieu, regardez à Jésus sur la croix. C'est la plus grande démonstration du cœur de Dieu pour nous, c'est quand il a donné son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu qui dit « bon, ressaisis-toi ». Ce n'est pas un Dieu qui te dit « bon, ben, je t'ai donné une opportunité, maintenant tu l'as raté, tant pis pour toi ». C'est un Dieu qui se donne, qui verse sa vie pour nous. Il a donné son Fils. Ce n'est pas un Dieu qui garde pour lui. C'est un Dieu qui donne tout. Il se donne lui-même. Ne regardez pas à votre père, à vos parents, à vos enseignants pour avoir une image de Dieu, mais regardez Jésus sur la croix. Les gens vont toujours vous décevoir, mais quand vous regardez Jésus, vous regardez le Fils, vous voyez le Père. Jésus a dit, personne n'a vu le Père, mais moi. Alors regardez à Jésus. Il nous a été envoyé, Jésus, pour qu'on puisse voir le Père à travers lui. Donc quand vous voulez savoir à quoi ressemble le Père, regardez Jésus, parce que le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père, et le Fils maintenant est en nous, et le Saint-Esprit également. Est-ce que vous savez que si vous avez Christ, vous êtes un fils et une fille de Dieu? Ce n'est pas juste une jolie idée théologique. Vous avez été adopté et vous avez fait l'un des siens. Il bouge vers nous avec amour, miséricorde et pardon. Il n'est pas comme un Père Noël, mais il n'est pas non plus comme un officier de police. Il est comme un père qui veut que ses parents, que ses enfants soient auprès de lui partout dans le monde. Tim et moi, nous étions il n'y a pas longtemps en Turquie pour un grand rassemblement au Kazakhstan, en Ouzbékistan, dans le Caucase. Tout au Moyen-Orient, il y a 400 personnes environ qui se sont rassemblées. Dans ces pays-là, ce sont des premières générations de chrétiens. Et c'était vraiment remarquable de voir comment l'Église grandit dans cette partie du monde. C'est une partie du monde qui était avant dans l'Union soviétique, qui étaient beaucoup sous l'islam, des gouvernements qui encore aujourd'hui ne permettent pas aux églises d'exister, mais et pourtant les églises grandissent. Comment ça se fait? Tout est contre eux. L'argent, le gouvernement, la religion, tout est contre eux. Parce que nous avons un Père qui veut faire le bien pour ses enfants. Il construit son Église. Et si vous en doutez, je vous encourage vraiment seulement à prier ce matin. Et dites, Seigneur, j'ai peur que tu vois tout ce que j'ai fait de mal et je ne peux rien défaire ou refaire. Est-ce que c'est vrai que tu m'as pardonné pour tout ça? Est-ce que c'est vrai que je suis ton fils et ta fille bien-aimée? Est-ce que c'est vrai? Demandez-lui de vous montrer et il le fera. Il a envie de faire ça. Un des mensonges avec lequel j'ai vécu dans ma vie, c'est que je suis tout seul. Que c'est un monde pourri, difficile, que mon éducation, ma carrière, mon mariage, que personne ne va m'aider, que je suis tout seul et que je dois essayer plus fort, que je dois tout comprendre tout seul. Et ça, c'est un mensonge que le diable a utilisé pour m'isoler souvent, très souvent. Et Dieu m'a dit, non, tu n'es pas tout seul. Je serai avec toi, je suis avec toi, je suis en toi, fais-moi confiance. Quelqu'un plutôt m'a dit, quand on priait pour la recherche de pasteur, quelqu'un m'a dit, prends-moi par la main et conduis-moi. Et ça, c'est une prière que je fais souvent. Seigneur, prends-moi par la main et montre-moi comment tu veux que je fonctionne. Vous savez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent entre eux de vous? C'est biblique, hein? Jésus, le Fils qui est né, qui est relevé d'entre les morts, dit qu'il intercède pour nous. Il intercède auprès du Père pour toi spécifiquement. Il parle au Père de cette église, de cette communauté. Et il parle entre eux de vous. Et le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous et qui circule parmi nous. Et le Saint-Esprit qui nous connaît, qui prie également au Père de notre part, c'est également biblique. Il connaît le Père, il connaît nos besoins et il parle entre eux à propos de nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent de nous constamment. Et ce n'est pas de colère dont il parle. Il ne dit pas « Oh non, regarde ce qu'il a fait encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Non, non, pas du tout. C'est vraiment de l'amour, de la miséricorde, de la gentillesse, de la bonté. Il veut les opportunités de nous montrer son amour, son abondance. Et ça ne veut pas dire que la vie va être facile. Il ne promet jamais cela. Il nous assure que dans ce monde, il y aura des épreuves. Mais il promet qu'il sera toujours avec nous et qu'il prendra soin de nous, quoi qu'il arrive. Et donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent de nous. Et leurs pensées envers nous sont pleines d'amour et de sollicitude. Et ça, c'est le message que Dieu veut nous donner. Et c'est une opportunité pour cette communauté, pour cette Église. C'est aussi ce que nous recherchons à Barnabas International, c'est de voyager dans le monde entier et de parler de la bonne parole, la bonne nouvelle de Dieu, pour dire aux gens que Dieu est en marche vers eux avec bonté, qu'il s'attend aussi à ce que les gens viennent à lui. Et c'est ça le message qu'on veut laisser dans cette ville, montrer que Dieu est un Dieu d'amour, miséricordieux, qui veut prendre soin des gens qui ont peur, qui sont seuls, de tout le monde. Et c'était vraiment un honneur d'être ici avec vous ce matin, et on voudrait prier avec vous et pour vous, pour que l'Esprit de Dieu continue à vous fortifier et à vous montrer l'amour de Dieu. Alors, prions. Père, nous te remercions tellement que tu es un Dieu qui n'est pas en colère, vindicatif, mais tu es un Dieu qui aime. Tu nous as vus dans notre péché, dans nos troubles, dans nos peurs, dans notre solitude. Et tu ne nous as pas dit juste de travailler plus dur. Tu as envoyé ton Fils pour nous. Merci Jésus. Parce que tu as obéi à ton Père, que tu as donné ta vie pour nous. Et maintenant, tu nous as donné ton Esprit, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné des frères et sœurs pour nous attirer à toi, pour nous enseigner qui tu es vraiment et comment être des bons fils et filles de notre Père. Seigneur, je prie que tu puisses continuer à nous enseigner comment être des hommes et femmes qui sont dans l'attente de tes promesses. Et je ne veux pas généraliser, mais j'ai besoin moi-même que tu nous enseignes, que tu nous permettes au Saint-Esprit de grandir en nous, que tu pries, et je prie pour tous mes frères et sœurs, que tu enlèves les peurs, les regrets qui sont dans leur cœur, que tu puisses leur parler aujourd'hui, que tu puisses mettre ton amour personnel et ton pardon en eux, que tu leur assures que tu les vois, que tu les aimes, et que qui qu'on soit, quoi qu'on ait fait, tu as un désir profond pour nous d'être près de toi. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen.